Cheese te recommande avec son émission Plein son sûr d'écouter un album en entier. Plein son sûr tous les vendredis de 10h à 11h à Cheese 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Cheese 94.3 et en balado-diffusion sur www.cheese.ca.
Voyons, comment ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain!
Cain? Hey boy, on est loin d'embarque ma belle.
Quand vous vous demandez...
C'est quoi cette toune-là?
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur cheese.ca et cliquez sur l'onglet Musique diffusée. Bonne écoute!
Cette émission est commanditée par le Festival de diffusion alternative Le Focof, qui sera de retour du 21 au 25 février 2022. Toutes les informations au focof.com.
Il est 4h.
Lundi tout le monde, c'est mon émission de retour. Vous écoutez Chérie J'arrive sur les ondes de Cheese 94.3. On est ensemble jusqu'à 17h30. Aujourd'hui à l'émission, eh bien, on va reprendre les chroniques évidemment. Pour commencer, on va avoir Anthony Lajeunesse avec sa chronique Popcorn. Je vais vous parler des sorties à venir prochainement aussi, autant au niveau musical, littéraire. Il y a plein de trucs qui s'en viennent pour la fin du mois de janvier, le début du mois de février. Je vais évidemment aussi vous donner des nouvelles du Carnaval de Québec. Et oui, ça va avoir lieu même avec les mesures sanitaires en vigueur. Je vais aussi vous parler de des maisons de disques du Québec qui se mettent au vert. C'est une nouvelle qui est sortie dernièrement et au tournant de 17h, eh bien, je jasais avec Amélie Nadeau du collectif Alice de vos empires. L'émission du retour de Chérie J'arrive du lundi 27 janvier, eh bien, ça commence maintenant.
Je n'ai plus.
De retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Vous écoutez Chambre d'écho. C'est évidemment Chose sauvage, ceux qu'on adore ici à Chiz. On va déjà y aller pour la chronique. On est avec Anthony Lajeunesse. Salut Anthony, comment ça va?
Salut Félix, ça va bien?
Oui, ça va super bien. En ce moment, évidemment, il y a une grosse tempête dehors, donc on s'appelle téléphoniquement, mais c'est aussi parce que toutes mes chroniques vont devoir se faire à distance jusqu'à temps que les règles vont me le permettre. Ça va me faire grand plaisir de te recevoir en studio pour commencer ça en bonne et due forme. Mais là, on va le commencer, même si c'est à distance. De quoi veux-tu me parler aujourd'hui dans ta chronique?
Hey, je viens parler d'une série de films que j'avais jamais écouté.
Et pourtant, c'est des classiques, hein?
Oui, ben c'est ça, oui. C'est une saga assez classique et culte. Puis je sais pas, ça a vraiment jamais donné. Puis en fait, je parle de Alien, les quatre premiers films de Alien.
Ouais.
Je t'en avais déjà parlé, mais je suis jamais été un fan de films d'horreur.
Mm-hmm.
Mais en fait, je pense que c'est plus parce que j'avais peur quand j'étais petit. Mais depuis, je m'écoute un peu plus, puis je me surprends à aimer ça. Puis j'ai eu une bulle dans le radar des fêtes. J'écoute les films Alien, sont survenus plus en plus, toutes les quatre premiers originaux, puis les prequels, puis les spin-offs. Donc j'ai écouté ça, puis j'ai compris pourquoi cette série-là était si culte et connue que ça. Premièrement, et le premier Alien, t'as-tu vu en fait ça, Philippe?
Dans le fond, j'ai vu le premier et j'aimerais ça que tu essaies de me convaincre d'écouter les trois autres d'après.
Ok, t'as pas accroché si je comprends bien.
C'est simplement que je voulais voir le premier pour savoir c'était quoi. Après ça, je m'y suis pas adonné vraiment, mais vas-y, essaie de me convaincre.
Ben, moi, c'est sûr que c'est un film qui date de 1979. Fait que moi, c'est sûr que quand en commençant, je l'ai écouté, puis j'avais entendu tous les bons commentaires, puis je regardais les sur Rotten Tomatoes, puis les compagnies, toutes les bonnes notes et les bons scores. Puis c'était un film d'horreur, fait que j'étais perplexe.
Mm-hmm.
Mais j'ai vraiment été captivé par ce film, honnêtement. Tout ce qui est... La plus grande force, en fait, c'est le xénomorphe, qui s'appelle le fameux monstre.
Mm-hmm.
Il est seulement 4 minutes à l'écran, puis à chaque fois que le personnage revient, on le voit toujours un petit peu plus.
Mm-hmm.
Puis ça garde un peu le spectateur en haleine. Dans le fond, tu veux le revoir, puis il est vraiment effrayant, ce monstre. Écoute, je m'en rappelle la dernière séquence du film, je te dirais, effrayant, un peu la bataille de la fin du film d'horreur. J'ai été surpris, j'avais ma télécommande dans les mains, j'ai tiré ma télécommande dans le mur, tellement que j'ai fait un saut. Puis j'ai vraiment trouvé que c'est ça, j'ai pas écouté le super de nombre de films d'horreur, mais j'ai vraiment été surpris. Puis pour un film qui date quand même de 40 ans, j'ai vraiment eu peur, puis je le cause vraiment comme dans un film d'horreur de haut niveau, si je peux dire. La mise en scène, comment qu'elle est faite, la tension qui monte petit à petit, puis le film commence, tu sais, l'histoire est assez simple, là. C'est une équipe d'astronautes qui tombe sur une planète, puis ils ramènent un extraterrestre de cette planète-là, puis là, ils tentent de s'échapper dans leur vaisseau, tu sais, c'est vraiment classique et pas compliqué. Mais c'est vrai, la tension monte petit à petit, puis OK, là, le monde s'apparaît, puis c'est vraiment qui va survivre jusqu'à la toute fin. Puis j'ai vraiment été surpris, puis j'ai été choqué par le film. Maintenant, je suis allé me coucher et je pensais juste à ça. Là.
Moi, j'aimerais ça revenir sur quelque chose que tu as dit. Le temps de le temps où on voit le finalement l'alien, je sais pas trop le titre exact que tu as dit, c'était quoi?
C'est le xénomorphe.
Le xénomorphe. Et justement, ouais. Tu l'as dit, tu as parlé d'une tension qui montait graduellement. Et je pense que c'est un peu le côté qui parfois manque, j'ai l'impression, dans les films de plus contemporains, là, les films modernes, qu'on laisse pas une place, une atmosphère s'imposer dans ce film-là. Tandis que, justement, en tout cas, le premier Alien de 79, on a vraiment cette aspect-là qui c'est un peu plus lent et on laisse, comme tu le dis, la tension monter tout au long du film, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui donne son charme à ce film-là, même si c'est un film d'horreur.
Non, mais écoute, tu viens de très bien résumer ça, c'est exactement ça, c'est vraiment de l'inconnu, c'est du mystère, fait que t'as peur, en même temps t'es curieux, fait que tu restes accroché. C'est le même, je l'ai vu, puis c'est très bien, tu l'as très bien décrit.
Et ben justement, là, on parle beaucoup du premier. C'est souvent, dans toutes les franchises, les gens vont souvent vouloir dire le premier, c'est un gros coup. Après ça, c'est juste pour faire de l'argent. Qu'est-ce que tu as pensé des autres de Alien? Parce que le premier, bien évidemment, moi, l'ayant vu, je suis d'accord avec toi que c'est un succès, c'est un classique. Mais pour le 2, 3, 4e, ça ressemble à quoi?
Le 2, honnêtement, par rapport à... Il n'est peut-être pas le niveau du 1, mais... Ça reste une des meilleures suites que j'ai vues parce que la pression était tellement haute, les attentes étaient tellement hautes, puis c'était dur de faire un film aussi bien. Mm-hmm. Et c'est réussi. Puis le film, pourquoi il marche en fait, c'est parce qu'il ressemblait au premier, mais il est très différent. C'est pas tout à fait un film d'horreur, c'est vraiment un film de guerre qui se passe dans l'espace. On se créerait au Vietnam, mais dans l'espace. C'est James Cameron qui a fait ce film-là, là, qui a fait Avatar, Titanic. Ouais. Il a vraiment réussi à... Il a gardé l'horreur, il a gardé les moments de tension puis tout, mais il a vraiment fait un film d'action. Puis il y a aussi le film en anglais s'appelle Aliens au pluriel, donc il est plus rendu juste avec un monstre, on en voit un peu plus. Puis il y a aussi, on voit la mère, la mother, qu'elle s'appelle en version originale. Fait que c'est vraiment... Honnêtement, c'est vraiment surprenant. Puis, si vous êtes pas un fan de films d'horreur, mais vous voulez un bon film de science-fiction avec de l'action, vous allez plus apprécier Aliens. Ça, c'est sûr et certain. Puis, j'ai vraiment été surpris de cette suite. Puis, ça vaut. Et ça, j'avais souvent vu des commentaires comme quoi c'était une des meilleures suites à Hollywood avec un peu Terminator 2 et Le Chevalier Noir, Batman. Là, mais c'est vraiment à mériter comme titre, là, si je peux dire.
Tout à fait. Bon, ben, si vous avez pas vu encore cette franchise-là, Alien, et on le sait en ce moment, on a beaucoup de temps chez soi, ben, prenez le temps, puis vous avez quatre films, et comme tu l'as dit aussi, il y a plein d'épisodes, de prologues, finalement, de suites qui ont été faites. Il y a les quatre films, évidemment, dont on parle en ce moment, mais il y a une panoplie de contenus que vous pouvez aller voir pour Aliens. Je veux parler, avant qu'on se laisse, d'une autre franchise qu'on a beaucoup jasé, là, à la fin de 2020. On attendait le quatrième film de la Matrice et finalement, ben, c'est disponible, mais encore une fois, à l'écoute chez soi.
Oui, moi, j'ai pas eu la chance de le voir. Je sais pas si tu as eu le temps là, au cinéma avant la sortie. En fait, non, il est sorti au cinéma et les cinémas étaient déjà fermés.
C'est ça, ça sortait le 22 décembre.
Je sais pas si tu l'as lu, tu l'as loué, tu l'as acheté, mais je l'ai pas fait parce que je veux espérer de le revoir au cinéma. Oui. Quand ça va réouvrir.
Ben justement, avec une série de films grandioses comme ça, pour ceux qui ont vu les trois premiers, c'est assez impressionnant. Ça vaut l'expérience en cinéma. J'ai vu aussi les prix qui sont assez... moi, je trouve que c'est exorbitant pour finalement une location ou même un achat d'un film à la maison. On parle de 25$ en location, 30$ à l'achat pour ce film-là de la Matrice Résurrection. Donc, toi, tu es en train de me dire que tu vas attendre pour le retour en salle.
Ouais, ben comme tu viens de dire aussi, le prix joue gros, je trouve, comme toi, je trouve que c'est assez élevé, mais en fait, c'est rendu la norme. Souvent, les films, après un 30-45 jours, ils vont sortir comme ça en location. Ils appellent ça à volonté, mais en fait, c'est pas vraiment à volonté, c'est vraiment tu l'as pendant 12 jours, je pense.
Ouais.
C'est un 30$. Fait. C'est sûr que pour les familles, ça peut être bien. Mais tu sais, moi, je me vois pas louer un film de 30$ sur mon téléviseur chez moi tout seul.
Exact.
C'est une des raisons pourquoi je veux attendre avant de le voir au cinéma. Mm-hmm. Mais ça, en fait, c'est sûr que les gens peuvent voir ça bien. Les gens qui attendaient beaucoup la dernière Matrice, c'est le fun pour eux. C'est toujours comme le fameux débat streaming ou cinéma que j'ai souvent eu avec toi. Mm-hmm.
Tout à fait. Ben pour moi, je pense qu'on est dans le même camp. On aime beaucoup se déplacer dans les salles de cinéma. On va attendre ça avec grande impatience pour pouvoir aller voir finalement les sorties aussi de 2022. On va peut-être voir La Matrice, évidemment. C'est ce qui conclut ta chronique Popcorn, ta première chronique de 2022. Merci beaucoup, Anthony de la Jeunesse, d'être passé à Chérie, j'arrive.
Ça fait plaisir. Merci à toi, Félix.
Salut. Vous êtes de retour à l'émission Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Il est 16h19 et en ce moment, on y va pour les sorties à venir prochainement puisque ben, toutes les salles de spectacle sont annulées dans ma boîte courriel. Ça s'enchaîne, on annule, on reporte à on sait pas quand, mais on va les attendre avec grande impatience. Mais pour l'instant, il y a quand même des sorties. Il y a un livre dont je veux vous parler et deux albums qui vont sortir cet hiver, ce printemps. Et je voulais vous en parler. Premièrement, Martha Wainwright, elle va sortir Stories I Might Regret Telling You. C'est une genre de biographie, mais c'est plutôt un mémoire qu'on dit sincère qui aborde entre autres son enfance, ses relations amoureuses, la perte d'être cher, la maternité, le divorce, évidemment sa carrière musicale. Elle est entourée d'une famille d'artistes de la musique. Martha Wainwright, quand je l'avais eu en entrevue, j'ai pu comprendre aussi tout le bagage qu'elle avait et c'est pour ça qu'elle a voulu poser ses mots et les imprimer, les sortir dans un livre. La version originale en anglais va être disponible le 29 mars avec l'édition Hachette Books et la version traduite va être disponible le 26 avril 2022. Ça va être avec les éditions Québec-Amérique. Il y a justement deux ouvrages, mais je vous en parle parce que la version originale va être disponible le 29 mars. Il y a deux projets sujets dont je veux vous parler ensuite de ça. Premièrement, c'est un collectif qui porte, un collectif même, devrais-je dire, qui porte le titre de 1969. C'est le 1969 Collective. C'est un album qui va sortir le 12 avril prochain. C'est en fait le réalisateur et le multi-instrumentiste Connor Seidel, qui est entre autres connu pour avoir travaillé avec Charlotte Cardin, avec Matt Olibowski, avec les Sœurs Boulay, avec Soran, Elliott Maginot. Lui, il a développé un concept d'un album qui a été influencé par l'année 1969. Au début, il voulait faire quelque chose sur les années 70 parce qu'on le sait à quel point cette décennie est importante pour plusieurs genres, entre autres le disco, le rock, plein de styles, plein de groupes, plein de carrières musicales. Et il a pensé à ses affaires, il s'est dit on va faire ça sur les années 70, mais finalement il s'est retourné juste une année avant et il a décidé de le faire à la suite de ce qui est arrivé, entre autres en mai 68. Il a décidé d'y aller pour l'année 69, qui est entre autres entre ces deux ces deux périodes fortes, autant au niveau historique qu'au niveau musical. Et il s'est entouré d'un collectif d'artistes impressionnants. Il y en a beaucoup que vous connaissez là-dedans et d'autres que vous allez sûrement découvrir. Il y a entre autres Ariane Moffat qui fait partie de ce collectif 1969, Half Moon Run, Louis-Jean Cormier, Safia Nolin, Claudia Bouvette et Jason Bajada. Ils font partie de ce collectif d'artistes qui vont sortir cet album 1969 Collective le 12 avril prochain. Connor Seidel, celui dont je vous parlais tantôt, le réalisateur multi-instrumentiste, désire offrir une expérience où chacun y laisse sa trace, son influence et crée la trame narrative. Il y a entre autres un genre de bande-annonce, un genre d'explication pour cette trame narrative qui est disponible. Écrivez 1969 Collective et vous allez trouver ça. C'est beaucoup d'artistes qu'on aime ici, dont on fait jouer la musique, et je voulais encore une fois vous en parler. Dernier projet, dernière sortie dont je voulais mettre ça, souligner ça, c'est la sortie de l'album de Marigold. On le sait bien, le mois de février, on ne sait pas à quoi on va s'attendre. On va sûrement devoir, encore une fois, écouter des albums sur notre téléphone à place de le voir en studio, en salle, devrais-je dire. Marigold s'assure de nous faire du bien en ce mois de février. Ça va être donc le 11 février, on va pouvoir entendre son nouvel album qui s'appelle Bienvenue à Baveuse Cité. Marigold qui est portée par l'urgence dans la création tout comme dans la vie. Marigold, on la voit entre autres sur un vélo stationnaire durant ses cours Zoom. Elle est assez impressionnante à suivre. Elle est en ingénierie en même temps que faire sa carrière musicale. C'est dur à suivre des fois, mais ça vaut la peine. Je vous invite, ça fait plusieurs fois que je vous invite à aller la suivre sur les médias sociaux, entre autres sur sa page Facebook. Eh bien, je profite de l'occasion pour, encore une fois, vous y inviter. On parle d'une trappe imagée à la fois poétique et frondeur. Ça va arriver sur son nouvel album, encore une fois, je le rappelle, qui s'appelle Bienvenue à Baveuse City. Ça va être le nom de cet album qui va sortir le 11 février prochain. En novembre dernier, devrais-je même dire, c'est le 12 novembre qui est paru le premier extrait, C'est qui le boss? Il y a un beau vidéoclip aussi qui a été accompagné de cette sortie-là, tout comme une robe assez impressionnante dont vous pouvez voir évidemment la photo sur son compte Instagram. On va y aller avec la chanson C'est qui le boss, et au retour on va continuer avec les sorties. Il y a entre autres Ghostly Kisses, c'est ce cher finalement cette autrice, compositrice, interprète qui s'entoure de personnes de talent, qui a sorti un dernier single avant la sortie de son prochain album. Mais je vous donne plus de détails après vous avoir fait écouter C'est qui le boss, parce qu'on l'attend le 11 février prochain, le prochain album de Marigold. On l'avait entre autres connu pour son collectif, ou ensuite son EP Gold Melody, Règle d'or, Règle 2 même. Mais là on y va avec C'est qui le boss. Vous écoutez Chérie j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3, et au retour on poursuit avec les nouvelles d'art et de culture. On y va.
C'est qui le boss? C'est qui le boss, motherfucker, that's me. Un selfie quand je parle, je t'ai pas demandé d'avis. Toi t'es dans tout, yeah yeah, what's good. Comment tu veux, je t'écoute, t'as de la marde dans bouche. C'est qui le boss, motherfucker, not you. Tu peux me corriger qu'avec autotune. Chacun son business, mais ton business, je m'en fous. Chacun son business, mais ton business, je m'en fous. C'est qui le boss,
Marie.
C'est qui le boss, c'est qui le boss,
Marie. Qui gère le cash,
Marie. Qui est son bac,
Jerry.
C'est qui le boss,
Marie.
C'est qui le boss, c'est qui le boss,
Marie. Qui gère le cash,
Marie. Qui est son bac,
Jerry.
C'est qui le boss, motherfucker, c'est Marie.
C'est Marie.
Puis cite pour se faire des amis,
non.
C'est ma propre, on finit par se saler,
hey, hey.
Après avoir passé la main peu toutes ces années, qui gère le cash, motherfucker, that's me. Je crée des emplois bonnes pour l'économie. Vous parlez too much, j'essaie juste de nommer l'employé du mois pour me faire pardonner. Et je parle en cachet et je braille en cachette. Je vis dans un carré car j'aime carré caché. Si tu me devances ou dada caché, il me lance des rushs, aïe aïe ricochet. C'est pas dur à engager mais yeah, j'engage. Moi j'aime que c'est pas dur à catcher comme un langage. J'ai profil de l'emploi et quand il y a longueur, si je vous crie après c'est de bon cas.
C'est qui le boss,
Marie. C'est qui le boss, c'est qui le boss,
Marie. Qui gère le cash,
Marie. Qui est son bac,
Jerry.
C'est qui le boss, c'est qui le boss,
Marie.
Qui gère le cash,
Marie.
Qui est son bac,
Jarine.
Toc toc toc. Qui est là?
La.
Lucky?
Lucky.
Lucky you the boss.
Lucky you the boss.
Hey hey hey.
C'est qui le boss,
Marie.
C'est qui le boss, c'est qui le boss,
Marie.
Qui gère le cash,
Marie.
Qui est son boss,
Jerry.
C'est qui le boss,
Marie.
C'est qui le boss, c'est qui le boss,
Marie.
Qui gère le cash,
Marie.
Qui est son boss,
Jerry.
Yeah 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 yeah. Papa Bureau. Hey hey hey. C'est qui le, c'est qui le boss.
Parfois, l'actualité peut sembler nébuleuse, confuse, opaque et peut mener à des questions du genre « C'est qui ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en parle? » Chiz 94.3 a la solution miracle pour toi. Écoute Un fort dans le midi tous les jours en semaine dès midi. Avec Guillaume Médard et son équipe, on est là pour t'éclairer sur les enjeux d'actualité. Avec des chroniques, des analyses, des entrevues, du contenu pertinent et recherché. Un fort dans le midi, c'est ta quotidienne d'actualité pour tout savoir et tout comprendre sur les ondes de Chiz 94.3.
Tous les jours, on en fait. Tous les jours, on en parle. Mais on s'en rend pas compte. En fait, c'est un peu inconscient. Notre vie en société est marquée par, eh oui, la politique. Chiz 94.3 accueille les mercredis juste de la politique, autant pour ceux qui ne la comprennent pas que pour les pros et fans finis. Avec moi, Félix Bouffard et mes collaborateurs, on décortique, analyse et réfléchit la politique locale. Allez, venez participer à la discussion. Juste de la politique, en direct les mercredis 14h et en balado sur chiz.ca.
T'as envie d'une solution clé en main pour dénicher les meilleures nouveautés musicales? Facile! Suffit d'écouter Le Démineur. Chaque lundi soir, je fais un tour d'horizon des meilleures sorties musicales de la semaine, tous styles musicaux confondus. Aucune raison de te perdre dans le flow des sorties musicales. Écoute Démineur, ton phare dans la nuit. C'est un rendez-vous les lundis soirs dès 21h sur les ondes de Chiz 94.3.
Chérie, j'arrive sur les ondes de Chérie 94.3. Il est 16h32. Il reste encore une heure de musique, d'art et de culture ensemble. Vous écoutiez Night Shift de Maggie Lennon. Je veux maintenant vous parler de Ghostly Kisses, qui a fait paraître un dernier single avant la sortie de son premier album le 28 janvier prochain. C'est très, très bientôt, ça, ce 28 janvier-là. C'est en dévoilant le 27 décembre dernier une intime session acoustique en direct du Grand Salon que Ghostly Kisses marque la sortie de ce quatrième single. On a bien mis la table, on a proposé au public ce dont on allait pouvoir s'attendre pour ce premier album-là avec 4 singles. Et là, pour le dernier, bien, on a vraiment compris c'était quoi l'essence de ce projet-là. C'est filmé en toute sobriété que ce plan séquence de 3 minutes qui plonge une fois de plus le spectateur dans l'univers, on dit intime, touchant, unique. C'est On sent enrobé par la musique de Ghostly Kisses. C'est avec leur le nouveau single Green Book que je vais vous faire entendre que vous allez comprendre que c'est pas vraiment de la musique de party, c'est plus quelque chose pour se permettre de réfléchir, de décompresser et d'apprécier aussi de la musique d'un artiste de Québec qui s'appelle Margot Sauvé. Elle signe encore une fois la musique sur cette chanson-là. C'est aux côtés de son acolyte Louis-Étienne Santé. Il y a aussi le réalisateur new-yorkais Tom Bartley, qu'on connaît entre autres pour Sufjan Stevens, Saint Vincent, The National. Justement, Margot Sauvé a fait confiance à ce réalisateur-là pour donner à Green Book une atmosphère qu'on dit féerique. On a du piano, on a du mélotron, on a des ambiances justement qui vont envelopper, qui on a vraiment voulu, excusez-moi l'anglicisme, mais c'était le mood. Et entre autres avec le vidéoclip qui est le plan séquence, on comprend vraiment ce dont on va pouvoir entendre le 28 janvier prochain. Bien, on y va avec Green Book et après ça, je me gâte avec une de mes chansons préférées de Julianne, un autre artiste de Québec. C'est la chanson Run Around, donc on y va avec Green Book. Vous écoutez Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3.
Once you said I'll never make you cry. Angel eyes are only meant to smile. Once you said all will be alright. Even when there's nothing left to try. Then I used to sleep under my bed. I would play dead and couldn't see the tears you shed. Now every time I close my eyes, I'm still trying to read your mind. Once he said we are meant to die, let me go. You shed. No.
Retour à Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Il est 16h41. Vous écoutiez Run Around de Julianne. J'espère que ça l'a mis un peu de soleil, un peu de sourire dans votre journée qui, c'est la tempête en ce moment. C'est une surprise pour personne, mais j'espère que, justement, cette musique-là a pu égayer un peu votre journée. Il y a, entre autres, une nouvelle assez intéressante qui est par rapport à cet artiste-là de Québec, Julianne. Il y a, en collaboration avec un autre artiste de Québec du nom de Jérôme 50, qui a fait, en collaboration, une chanson qui s'appelle Jouer dehors. Et Jouer dehors, c'est une chanson que vous allez entendre dans la nouvelle saison de Passe-partout qui commence aujourd'hui. Et oui, Julianne et Jérôme 50 qui écrivent des chansons pour Passe-partout. On aura tout vu et je vous souhaite que des plus jeunes commencent développer un amour pour les artistes de Québec à travers justement cette émission qui a eu un reboot. Bien, assez parlé de Passe-partout. Je vais maintenant vous parler du Carnaval de Québec. On va avoir droit justement à ce carnaval qui ne mérite plus de présentation. Ça va être du 4 au 13 février prochain. On va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements culturels pour le mois de février, entre autres le Focoff, qui commandite entre autres cette émission-là. Mais là, le Carnaval de Québec, qui va avoir lieu du 4 au 13 février, bien sûr, il y a des modifications à la programmation. On enlève les soirées dansantes, les deux soirées musicales qui avaient été prévues, entre autres le 4 et le 11 février. C'est les soirées hip-hop et les soirées électro frette. Là, on enlève ça et on ajoute des activités qui font participer toute la famille, des activités dont je vais vous donner des détails plus dans quelques instants. Finalement, le carnaval qui va bel et bien avoir lieu et justement c'est son équipe d'artisans qui ont déjà commencé à monter les installations, entre autres, au palais, le palais de Bonhomme à la place de l'Assemblée nationale. Il y a aussi le site de glisse de débarque près de la francophonie. Il y a le camp Adjo qui est à la place Georges V. Ça, c'est dans le coin de l'amphithéâtre, le Vidéotron. Il y a, justement, je vous l'avais dit, mais les rendez-vous musicaux qui vont devoir être annulés. Mais il y a deux nouvelles activités qui ont été proposées, qui ont été annoncées. La première s'appelle Hockey de quartier Vidéotron et l'autre, c'est Cherche et trouve. On va commencer par Hockey de quartier Vidéotron. Ça, c'est quelque chose qui se passe en deux phases. La phase numéro un, eh bien, on va vous demander de vous inscrire à ce grand tournoi de hockey de rue. Donc, vous vous inscrivez sur le site, écrivez Carnaval de Québec et vous allez trouver toutes les informations sur leur site web. Donc, vous créez une équipe de hockey de rue et après ça, dans la deuxième phase, eh bien, vous affrontez d'autres équipes. Il y a même... dans le fond, vous allez organiser ça dans toute la ville et vous allez organiser. Finalement, vous vous inscrivez et il va y avoir une équipe qui va venir vous accompagner. Ils vont arriver avec des surprises, avec des cadeaux. Eh bien, regardez ça, ça vaut la peine. Et jouer au hockey, c'est toujours le fun, autant sur la glace que dans la rue. L'autre activité dont je voulais vous parler, c'est Cherche et trouve. On parle des objets géants de Bonhomme. Ben oui, justement, lors de ses derniers passages dans la Jacques-Cartier, Bonhomme y a échappé quelques effets personnels dans ses lieux favoris. On parle entre autres du parc national de la Jacques-Cartier, du manoir du lac de l'Age, du centre de ski Le Relais et de l'hôtel de glace du village vacances Valcartier. Eh bien, jusqu'au 29 janvier, les participants vont pouvoir trouver ces objets géants de Bonhomme. Et oui, c'est un virlangue, je m'en étais pas rendu compte. Justement, vous allez pouvoir repérer les mots secrets et les inscrire, vous inscrire au jeu sur carnaval.qc.ca/concours. Pendant le carnaval, il va y avoir aussi d'autres points à accumuler en trouvant des mots qui sont cachés, entre autres à la station de photo tourisme Jacques-Cartier à Place Dieuville. Il va avoir des prix à gagner, donc autant avec Cherche et Trouve que pour le finalement le grand tournoi de hockey de quartier Vidéotron, vous allez pouvoir gagner des trucs avec le Carnaval de Québec. On va pouvoir justement se mettre dans l'ambiance et aller jouer dehors, se remémorer les bons temps de le temps du Carnaval qui va avoir lieu du 4 au 13 février 2022. On se laisse en musique maintenant pour la chanson Peaches, mais ce n'est pas la chanson de Justin Bieber, c'est la chanson de Milk and Bone avec Alex Lustig. Après ça, je vous parle, entre autres, justement d'un organisme qui a été lancé par une femme du duo de Milk and Bone. On y va avec l'écoute de Peaches.
Let's spin some shit and plan a grand escape. Now come back.
Vous êtes de retour à l'émission Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Il est 16h50, vous écoutiez Peaches, la chanson de Milk and Bone et de Alex Lustig. Milk and Bone, ça fait depuis 2018 qu'on n'a pas eu le droit à un de leurs albums, donc après maintenant 4 ans, on espère pouvoir entendre justement de ce duo-là en 2022. Duo qui est fait entre autres par Laurence Lafont-Bone qui en 2017, elle a lancé leur artiste citoyen en tournée qui avait dans un premier temps comme objectif d'offrir des recommandations à des artistes qui veulent diminuer leur empreinte écologique. Elle s'était retrouvée suite à un des spectacles de Milk and Bone devant l'espèce de dépotoir que peut représenter un endroit où il y a des festivals où les gens sont pas respectueux de l'environnement, et elle a eu justement l'idée de fonder cet organisme-là pour redonner espoir entre autres aux artistes, mais aussi aux gens qui se déplacent dans les festivals pour avoir un environnement, justement un endroit de festival propre, mais aussi pour faire attention à leur empreinte écologique. Pour ce projet-là de 2017, Laurence Lafont-Bone s'était associée entre autres à Caroline Voyer, qui est directrice générale du réseau des femmes en environnement. Il y a aussi Aurore Courtieu-Boineau qui se décrit comme une artisane de la transition écologique. Donc c'est ce trio féminin qui sont à la tête de artistes citoyens en tournée depuis sa fondation. Oui, ACT, qui est l'acronyme de cet organisme-là, compte une cinquantaine d'artistes du Québec dans ses rangs. Il y a entre autres Charlotte Cardin, Claude Pelgag, Ariane Moffat, Corias, les Sœurs Boulay, pratiquement quasiment ceux dont je vous parlais tantôt avec le collectif 1969. Ben, ils font partie de l'organisme Artistes Citoyens en tournée. Il y a même des diffuseurs de spectacles comme le MUTEC, le Petit Théâtre de Québec, qui font partie de ce mouvement-là. Donc, c'est encourageant de voir que des gens de la scène musicale aussi veulent faire de quoi pour l'écologie. Il y a maintenant, ça vient tout juste de sortir, maintenant deux maisons de disques aussi qui se joignent au mouvement. La maison Bravo Musique, qui est entre autres dirigée par Cœur de Pirate à la tête de Bravo Musique. Il y a aussi Bon Sound qui, on les connaît bien, les artistes de Bon Sound, entre autres, Safia Nolin, qui fait partie de cette grande famille. Qu'est-ce que ça fait que ces maisons de disques décident de participer à Artistes Citoyens en tournée? Bien, ça a un phénomène de centralisation. Ça fait en sorte que tous les artistes de ces maisons de disques-là vont être influencés, vont même être fortement influencés à respecter, à diminuer leur empreinte écologique et à suivre le mouvement. On parle entre autres de leur devis technique. Ça, c'est la liste de trucs qu'ils veulent quand ils vont arriver pour le spectacle. Il y en a qui veulent, je sais pas, de la nourriture spécifique. Ils veulent un éclairage particulier. Vous savez, des fois, les artistes peuvent être très méticuleux, mais dans la plupart des cas, les devis techniques sont assez simples et on va justement permettre, on va demander certaines accommodations, si je pourrais dire ainsi, et avec Artistes Citoyens en tournée, on va faire attention et on va les avertir, on va leur dire, essayez de diminuer votre empreinte écologique, essayez d'être intelligent dans vos demandes pour pas que ça dégénère comme finalement l'horreur que Laurence Lafont-Bone a vue avant d'avoir l'idée de créer cet organisme-là. Donc voilà, je voulais vous parler de finalement des actions concrètes qui sont posées par le domaine artistique, qui me parle de domaine musical même en ce moment, pour joindre l'épaule à la roue et y aller pour faire un vent de changement en cette année 2022. Donc, on va y aller pour une chanson, une de mes chansons préférées de l'album Takotsubo. C'est de l'Impératrice, ce groupe français. C'est la première chanson, ça s'appelle Anomalie Bleue. Et avec l'heure qui avance, après ça, on va devoir y aller pour une pause publicitaire. À la suite de ça, il nous reste une demi-heure ensemble. Déjà, ça passe très vite, cette première émission-là. Ce retour en ondes de Chérie, j'arrive. On va avoir Amélie Nadeau, qui fait partie du collectif À l'Est de vos empires, qui va venir nous parler, comme elle vient deux fois par mois, nous parler de sujets artistiques. Elle nous parle entre autres d'expositions qui sont possibles de voir. Elle va nous parler de Stanley Février. Donc, si vous voulez pas manquer ça, eh bien, restez avec nous jusqu'à 17h30. Vous écoutez Chérie, j'arrive. On y va avec Anomalie Bleue de l'Impératrice. Thank you.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied.
C'est le nom! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Bord de la Réveillard Saint-Charles. Boisé sur le slalom, musique de zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Entre mesdames, messieurs, y'a de la place en masse. Vous pouvez pas manquer le dernier show.
Un soir, c'est pas un soir comme un autre soir.
C'était le titre, le dernier show de Brunemère sur le projet Pan Yen. Vous êtes de retour à l'émission Chérie, j'arrive, et c'est maintenant le temps d'y aller pour la chronique avec Amélie Nadeau. Elle fait partie du collectif À l'Est de vos empires qui, ça c'est une émission qui à la base justement était à Schiste, et là ils sont totalement indépendant, et il y a Amélie qui vient me parler d'art et de culture, en fait d'art visuel et de sujets. En fait, je vais te laisser présenter tout ça, Amélie. Comment ça va? Comment tu vas en 2022?
Salut Félix, ça va super bien?
Oui, ça va super. De quoi veux-tu me parler aujourd'hui?
Donc, ce mois-ci, le sujet que j'ai choisi de vous présenter, c'est la notion de fragilité psychologique chez les artistes. Mm-hmm. Donc, en fait, on va se pencher sur la manière dont les artistes traitent de santé mentale dans leur art, ouais, que ce soit, en fait, ce qui les concerne eux ou ce qui se concerne la société en général. Puis, cette semaine, en fait, j'ai décidé de vous présenter l'artiste Samy Février et, plus précisément, son exposition qu'il a actuellement au Musée national des Beaux-Arts du Québec, qui s'intitule « Même via Tintin, les vies possibles ».
Oui. Ben justement, qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur cette exposition-là?
Donc, en fait, l'exposition, c'est la première exposition solo de l'artiste. Donc, Samy Février, c'est le quatrième récipiendaire du prix en art actuel du musée. Donc, en fait, c'est une exposition qui se déroule en deux volets. Donc, on a une première partie qui est au Musée national des Beaux-Arts du Québec. C'est situé dans le pavillon Gérard Morisset depuis le 9 décembre dernier. Puis ça va être là jusqu'au 16 octobre 2022. Et il y a aussi le deuxième volet de l'exposition qui est au MACLO, donc le Musée d'art contemporain des Laurentides. Donc, en fait, c'est une exposition qui est assez représentative de la pluridisciplinarité de Samy Février. Donc, on y retrouve de la photo, du dessin, de la sculpture, des moulages et aussi des installations. Et à travers cette exposition-là, Samy Février traite de quand même plusieurs sujets. Donc, on y retrouve notamment la brutalité policière, tout ce qui touche au racisme, les inégalités sociales et la maladie mentale. Puis, en fait, ce qu'on peut comprendre à travers la manière dont il aborde ces sujets-là, on le comprend bien par le titre qu'il a choisi pour son expo. Donc, en fait, « Même via Tintin », c'est une expression en créole. Ça représente en fait la ritournelle classique du recommencement. On pourrait la comprendre à travers la traduction anglaise de « same old shit ». Puis en fait, Stanley nous en propose également une traduction en québécois qui serait la même crise d'affaires. Donc en fait, Stanley Février choisit de traiter de ces sujets-là en nous montrant de quelle manière est-ce que tous ces fléaux-là de la société sont là depuis longtemps et semblent toujours recommencer sans cesse, puis venir nous interpeller, nous, en tant que spectateurs, mais aussi en tant que membres de la société, pour se demander comment est-ce qu'on peut justement faire arrêter que cette même crise d'affaires se reproduise tout le temps.
C'est assez frappant, justement, et si je me trompe pas, en fait, c'est un peu juste de donner un reflet de la société pour que les gens prennent conscience de finalement toutes ces atrocités.
Exactement. Donc, en fait, Stanley se penche sur tout ce qui touche à la douleur physique et psychologique qu'on peut vivre, nous, en tant qu'êtres humains. Mm-hmm. Ça se traduit à travers, évidemment, différentes sphères là, de la société. Ça vient nous interpeller, nous, en fait, que ce soit parce qu'on est principalement victime de ces genres de douleurs-là, de ces genres d'injustices-là, mais ça vient aussi nous les représenter, que ce soit lorsque ça touche d'autres communautés. Puis, tous ces thèmes-là étaient super intéressants. On a également deux chroniques qui ont été faites sur le sujet à l'aérospatiale puis à l'Est de vos empires. Mm-hmm. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi vraiment de me concentrer sur ce qui touchait à la maladie mentale, à la santé mentale chez les artistes. Ouais. C'est quelque chose qui va se retrouver dans l'exposition de Samy Février à travers deux installations. Puis c'est en fait, d'une certaine manière, ça vient nous montrer comment est-ce que nous, on peut vivre justement cette fragilité psychologique-là, mais comment est-ce que les artistes, eux, vont l'expérimenter, puis c'est quoi la réponse qu'ils vont avoir à tout ça.
Tout à fait. Ben, j'aimerais ça, avant qu'on parle de cette fragilité psychologique-là, qu'on en apprenne plus sur Samy Février. Tantôt, tu as parlé du titre en créole, tu as fait la traduction en anglais, même la traduction en québécois. Moi, quand j'entends Samy Février, je me dis, c'est pas nécessairement quelqu'un qui vient d'ici. Il vient exactement de Port-au-Prince, à Haïti. Dis-moi en plus sur Samy Février.
Exactement. Donc, Samy Chevrier est né à Port-au-Prince en 1976. Puis maintenant, il vit et il travaille à Longueuil. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est un artiste qui a quand même un parcours particulier. Il y a derrière lui une carrière de travailleur social. Donc, justement, ça l'a notamment influencé son rapport à l'art. Il dit en particulier que à un certain moment dans sa pratique en tant que travailleur social, il se sentait mort à l'intérieur. C'est vraiment les mots qu'il a utilisés. Puis la manière de se sauver, il l'a trouvé à travers l'art, puis à travers la manière de matérialiser toute l'émotion que lui-même ressentait, mais qu'il recevait aussi dans ses interventions. Donc, en fait, c'est sûr que quand on travaille en travail social, on va vraiment être confronté à tout ce qui est fragilité physique, psychologique et toute la détresse que les gens peuvent vivre. Donc, c'est quelque chose que Samy va s'intéresser grandement ensuite puis qu'il va chercher à transposer en art, mais il va également utiliser sa propre expérience personnelle pour exprimer de quelle manière est-ce que les artistes, eux, ils sont influencés. De quelle manière est-ce que leur santé mentale peut être influencée par tout le milieu de l'art. Donc, en fait, quand il a commencé à développer sa pratique, Samy Chevrier a toujours mis beaucoup d'importance sur l'aspect participatif de ses œuvres. Donc, on en a parlé un petit peu en premier en présentant l'exposition, mais c'est très important pour lui d'impliquer le public dans ses expositions, de venir le chercher puis l'amener à se questionner. Puis, lui, en fait, la manière qu'il va penser ses œuvres et qu'il va penser aussi l'agencement de ses différentes œuvres dans l'exposition, ça va être d'une manière de créer des différents dispositifs qui vont orienter le débat, orienter la réflexion, mais toujours en laissant une grande place aux spectateurs à venir pousser la réflexion par eux-mêmes. Donc, pour lui, vraiment, quand il a décidé de mettre une plus grande importance à sa pratique artistique, c'était d'une certaine manière d'utiliser l'œuvre comme un vecteur de changement. Donc, c'est très important pour Samy Chevrier, tout ce qui est la dimension sociale, donc l'implication de l'art dans les changements sociaux de la société. Lui, il va vraiment, c'est vraiment important pour lui. C'est comme ça qu'il conçoit vraiment toutes les œuvres qu'il va produire.
C'est vraiment impressionnant de voir que cette sensibilité artistique-là est finalement, c'est un outil à travers lequel on veut changer soit la perception des gens ou les mener à poser une action. J'aimerais que, on parle plus précisément du thème que tu voulais aborder aujourd'hui dans ta chronique, c'est la fragilité psychologique, parce que il parle de plusieurs thèmes, t'as entre autres mentionné la brutalité policière, le racisme, mais justement, parle-moi de cet angle-là particulier, la fragilité psychologique.
Oui, donc c'est un thème qu'on retrouve dans l'exposition très principalement à travers deux projets, deux séries qui vont prendre la forme de deux installations dans l'expo. Donc la première, en fait, c'est l'installation qui s'appelle Lettre A, trois petits points, les vies impossibles. Donc tout ça, en fait, cette installation-là a pris naissance dans un projet qui est né en 2016. Février a produit une vidéo où est-ce qu'il va recopier une lettre qui a été écrite en 1970 par Christian Boltanski, qui est un artiste. Donc, en fait, Boltanski était à ce moment-là dans une période de difficultés personnelles, de difficultés financières. Puis, en fait, sorte de dernier recours, il a écrit une lettre très explicite là, de sa propre fragilité, de sa détresse, qu'il a envoyée ensuite à José Pierre, donc un écrivain français, critique et historien d'art. À ce moment-là, Christian Boltanski a reçu une réponse de José Pierre, mais en fait, ce que Samy Chevrier a choisi de faire, c'est de recopier mot pour mot la lettre à la main. Il l'a envoyé notamment à Christian Boltanski, mais il l'a aussi envoyé aux 41 galeries d'art qui font partie de l'Association des galeries d'art contemporains. Donc, en fait, ce qu'il cherchait à faire, c'est de reprendre exactement les mots de Boltanski qui ont été écrits en 1970, de les reproduire aujourd'hui en 2020, ben, en fait, en 2021, au moment où est-ce qu'il a, en 2016, pardon, le moment où est-ce qu'il a initié le projet. Puis ensuite, de voir en fait quelle serait la réponse du milieu de l'art face à ces cris de détresse-là. Il n'a reçu aucune réponse. Donc, aucune réponse ni de Christian Boltanski, ni d'aucune galerie d'art. Donc ça mène à quand même plusieurs questionnements. Si on se demande est-ce que c'est parce qu'il y a une indifférence du milieu de l'art face à la détresse des artistes, Est-ce que c'est juste un manque de temps? Est-ce que c'est juste, en fait, qu'ils l'ont pas lu, qu'ils l'ont pas reçu? En tout cas, ça mène à plein de questionnements, mais c'est quand même particulier de se dire que des 41 galeries d'art, il y en a aucune qui a répondu à l'appel à l'aide de février, qui était, en fait, l'écho des mots de Christian Boltanski. Puis, en fait, cette vidéo-là, on le retrouve dans l'exposition au Musée des Beaux-Arts. On voit notamment Fanny Février recopier en entier la lettre et ensuite aller la porter à la poste. Puis ça, en fait, ça l'a mené à un projet qui est un projet de radio. Donc, ça s'appelle Radio Les Vies Possibles. Donc, Fanny Février a décidé de produire une série d'entrevues dans lesquelles il invite les artistes et les différents membres du milieu de l'art actuel à se positionner puis à s'attarder sur les différents enjeux qui touchent la santé mentale des artistes. Puis aussi, on va avoir des témoignages d'artistes ou de différents membres du milieu de l'art par rapport à leur propre rapport avec la fragilité psychologique, puis de quelle manière est-ce que le milieu de l'art peut soit contribuer à cette fragilité-là ou du moins ne pas y être sensibilisé. Donc, tout ça, ça va mener à différentes entrevues et différents ateliers qui vont être diffusés dans le fond depuis le mois de novembre 2021, puis ça jusqu'à août 2022, autant au Musée des Beaux-Arts qu'au Musée d'art contemporain des Laurentides.
Tout à fait. Tu veux maintenant me parler de la série Les Victoires?
Oui. Donc, en fait, dans le projet Les Vies Possibles, ce que Stanley a fait ressortir, c'est en fait lorsque la communication semble impossible. Donc, en fait, on l'a dit, Stanley a écrit une lettre aux galeries d'art, il n'a reçu aucune réponse. Donc, ça l'a mené à se questionner sur, bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il n'y a plus aucune communication? Comment est-ce qu'on fait pour exprimer notre douleur, notre fragilité, lorsqu'en fait, on n'a pas de retour? Puis, pour ça, il a créé la série Les Victoires. Donc, c'est une série de tableaux peints sur bois. Ce sont des œuvres très géométriques dans lesquelles Stanley va reprendre l'esthétique des signaux de détresse. Donc, les signaux de détresse qui sont utilisés par le transport maritime lorsque toute la communication par radio, donc tout ce qui permet de faire de la communication par écrit ou verbalement est rendu impossible. Donc, ce sont c'est un peu comme une reprise du code Morse puis de signaux visuels qui permettent d'exprimer, en fait, une problématique. Puis, en fait, ça lui a permis de développer différentes œuvres dans lesquelles il va exprimer des manières de, en fait, différentes façons de démontrer cette fragilité-là psychologique de manière visuelle, de manière esthétique, dans un moment où est-ce qu'en fait, il n'y a plus aucun autre moyen de le faire. Donc, ça lui permet, en fait, de mettre en image cette difficulté-là que les artistes vont rencontrer dans le milieu de l'art, de faire reconnaître la détresse psychologique qu'ils peuvent ressentir. Puis c'est sûr que ça, c'est quelque chose de super important parce que le milieu de l'art, c'est un milieu qui est, il faut le dire, très complexe. Même Stanley Février, lui, comme on disait, c'est la première exposition solo qu'il a dans un musée. Il a participé à différentes expositions collectives dans le passé, mais il a quand même dû faire face à un grand manque de compréhension là, dans le milieu de l'art. Notamment, on l'a appelé à plusieurs reprises un artiste enragé. On disait que ses propos étaient un peu trop déstabilisants. Donc, tout ce manque de compréhension-là, puis ce manque de réceptivité de la part du milieu de l'art, c'est sûr que ça peut venir influencer les artistes. Puis, en fait, Stanley Février voulait mettre en lumière ce côté-là, en fait, qu'on parle pas souvent, mais du fait que les artistes peuvent devenir isolés dans tout leur processus. Puis d'autant plus quand les artistes choisissent de traiter de sujets autant déstabilisants, de tragédies qu'on vit dans le monde contemporain, c'est sûr que ça peut venir difficile au niveau psychologique à la longue.
C'est vraiment intéressant parce que justement, Stanley Février qui voulait parler de cette maladie mentale-là, de cette fragilité psychologique, qui a fait un genre de cri à l'aide en reproduisant la lettre de Boltanski. Il n'a pas eu sa réponse, il y a eu justement une reconnaissance assez difficile, mais même après tout ça, il a quand même voulu, comme tu nous l'as expliqué avec, entre autres, l'aspect participatif, le fait que même si il cherchait à attendre des perches, il n'y a pas eu de réponse, mais les gens quand même ont voulu l'entourer. Ben, j'imagine que aussi, Stanley Février, même si le milieu de l'art en tant que tel, il y a quand même un public qui sont fans de son travail, non?
Oui, ben, tout à fait. Puis en fait, dans la manière qu'il vient nous interpeller, pousser, notamment, oui, par rapport aux artistes principalement, mais ça vient aussi nous questionner en tant qu'individus de quelle manière est-ce que nous, on reçoit les signaux de détresse qui sont manifestés par les gens autour de nous. Tu sais, ça te fait une dimension qui est beaucoup plus large. Puis, en fait, on peut se questionner aussi sur est-ce que, en fait, le fait d'exprimer notre détresse psychologique, est-ce que c'est si facile que ça? Parce qu'on dit souvent, ben il suffit d'en parler, il faut en parler. Ouais. Mais, ben d'une part, qu'est-ce qu'on fait lorsque, malgré qu'on parle, il n'y a pas d'écoute, même si on l'exprime, il n'y a personne qui le reçoit? Ou sinon, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas capable de le verbaliser ou quand on n'est pas capable de mettre des mots sur la détresse qu'on vit? Donc ça, c'est une réalité que, oui, les artistes vivent, mais qui prend une dimension encore plus large puis qui vient toucher toute personne. Puis tu sais, ça, c'est une détresse qu'on peut vivre par rapport au quotidien, mais qui est encore plus sociétale quand on vient lier ça à, justement, toutes les tragédies qu'on vit aujourd'hui. Donc ça vient rejoindre tous les autres thèmes que cette année février aborde, donc que ce soit tout ce qui touche à la tuerie liée aux armes à feu, que ce soit par rapport à la brutalité policière, par rapport aux inégalités sociales, la difficulté d'avoir accès à un logement. Donc, c'est toutes des réalités qui, soit nous touchent personnellement, nous, ou peuvent toucher des gens qui sont proches de nous. Mais même si ça touche personne autour de nous, ça reste que c'est des enjeux qu'on doit prendre en considération parce que ça fait partie de notre quotidien malgré tout.
Tout à fait. Puis, comme tu l'as dit, même si tous les messages autour de nous nous disent parler quand vous vous sentez, quand vous avez un malaise, quand vous avez une certaine détresse, mais il y a une façon aussi, comme tu l'as dit, on peut avoir de la misère à l'exprimer. On peut aussi l'exprimer, puis l'autre personne veut avoir peur de ça. Mais en fait, c'est très complexe et je trouve que de l'analyser à travers l'art de Stanley Février, c'est vraiment intéressant. Puis ça nous fait voir toute cette complexité-là qui est la maladie mentale, le fait d'habiter en société, d'habiter avec ce malaise-là, d'interagir avec les autres pour possiblement s'en sortir ou grandir de tout ça. C'est vraiment le fun de pouvoir parler de ça. Et on va se retrouver dans deux semaines pour poursuivre cette chronique-là. C'est déjà ce qui conclut ça. Ça fait déjà une 15-20 minutes qu'on jase. Bien, je te remercie, Amélie, d'être passée à l'émission. Mais c'était par téléphone, c'était vraiment intéressant. Puis on se dit à dans deux semaines.
Ben merci à toi, c'est au plaisir de vous retrouver dans deux semaines pour poursuivre ce sujet-là, c'est super intéressant.
Merci beaucoup, salut.
Salut.
Moi c'est guerre à son danger, mon pote.
Et c'est déjà le temps de conclure en ce lundi 17 janvier 2022. C'était le grand retour de Chérie J'arrive. On va continuer. On va être là toute la semaine. On va être là tous les jours de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz. Vous connaissez déjà la chanson. On va faire un petit retour sur les sujets d'aujourd'hui. J'ai commencé avec la chronique Popcorn d'Anthony La Jeunesse. On a parlé entre autres des quatre films de Alien. On a parlé de La Matrice qui va être disponible en vidéo sur demande et on a parlé aussi des sorties à venir, donc Martha Wainwright avec son livre, la version originale le 29 mars, la version française le 26 avril. Je vous ai parlé du 1969 Collective, de l'album de Marigold qui va être disponible le 11 février. Je vous ai parlé de Ghostly Kisses qui arrive avec un prochain album, le premier de Margot Sauvé. Ça va sortir le 28 janvier prochain. Je vous ai parlé du Carnaval de Québec aussi qui va avoir lieu du 4 au 13 février. Les deux soirées musicales sont enlevées, mais on a proposé d'autres activités qui font participer toute la famille. J'ai parlé aussi de l'organisme Artistes Citoyens en tournée, entre autres Bravo Musique et Bonsand, qui se joignent à ce mouvement pour diminuer leur empreinte écologique. J'ai parlé avec Amélie Nadeau finalement dans la dernière demi-heure pour sa chronique avec À l'Est de vos empires. Elle m'a parlé de l'artiste Stanley Février, de la question de la fragilité psychologique. Ça va être une chronique qui va se poursuivre dans deux semaines. On va se revoir peut-être en vrai, qui sait? Quelles seront les mesures le 31 janvier? On ne saura pas. On va se tenir au courant pour toutes ces mesures-là. Et dès que j'ai des nouvelles, je vous en fais part peut-être demain. On ne le sait pas, mais demain, on se retrouve encore une fois pour des chroniques. On va se retrouver à 16h sur les ondes de Chiz 94.3. Prenez soin de vous. Faites attention au volant. Puis on se dit à demain. Bye-bye.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
Voyons, comment ça, ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain!
Cain? Hey boy, on est loin d'embarque ma belle.
Quand vous vous demandez...
C'est quoi cette toune-là?
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur cheese.ca et cliquez sur l'onglet Musique diffusée. Bonne écoute!
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Cindy Game ain't for everybody, man. Some of us doing alright though, you know what I mean? Yo, I'm the first of a living breed, get the back academy. About half of them love me, the other half is mad at me. You see it, Poshine, no cosigns, no fuck shit. Fuck your producer, fuck your label and your publicist. This is direct service, from my crib to your house. Point out any city on the map, I'ma show out. Public enemy, Chuck D, inflate shit. Terminator X, flip the game around and change shit. Nightwalker, played shit. Wesley Snipe at his height. Phone ringing, bank account singing like Gladys Knight. Yo, I average about like 35. Why you cornballs be bragging with a nervous vibe? Robespierre of the Nobel Peace sent the show with a I ain't going nowhere speech. Heavy chip on my shoulder, big boulder. Atlas popping off three in a row.